Un, deux, test. Parlons.
Allô, allô.
Allô, allô, il y a Daf Cunt, you.
You Daf Cunt. Ya oui, Gov.
Are we rolling, you cunt?
Are we rolling? Écoute, ces beaux accents-là, ce beau patois-là, british, de Londres. Est-ce de Londres? Je pense que oui.
Oui, oui, absolument.
Vient de la tradition des films de Guy Ritchie. Qui sont remplis de patois.
Homme Ritchie.
Homme Ritchie, oui.
Dude Ritchie.
Dude Ritchie, qui nous sort son nouveau film, qui retourne à ses racines, qui s'appelle The Gentleman.
Effectivement.
Le Gentleman est une vue, et les voyeurs de vue que nous sommes...
Nous l'avons vu.
Nous l'avons vu. Il y a moi-même au micro, Yannick Belzile.
Et moi, Alex Rose, également au micro. Pas dormi beaucoup.
Pas dormi beaucoup, mais ça rajoute du production value à ta voix, je trouve. J'aime beaucoup ça. Alors, ouais, c'est ça. On a été voir The Gentleman. Guy Ritchie, il va avoir sorti deux films dans l'espace de un an.
Ouais, absolument.
The Gentleman et Aladdin.
Deux films qui sont très similaires.
Oui, oui. Ben, tu sais, Aladdin, c'est un rough and tumble. C'est un voleur. Puis, tu sais, il court, j'imagine. Je l'ai pas encore vu. Là, mais...
Ouais, je l'ai vu. C'est de la merde. Là. Ben, oui, genre, en fait. Non, on peut pas faire de lien. C'est un film de Disney, c'est une grosse machine poche, flat, sans saveur, sans goût, c'est 100 piastres.
Mm-hmm.
Mais là, c'est ça, Gentleman, c'est un retour aux sources, un peu, pour Guy Ritchie. Le genre de film qui a fait la renommée de Guy Ritchie, mais dont il n'avait pas fait depuis 12 ans.
Ah ouais?
Son dernier genre de film de gangster, si je ne m'abuse... C'était Rock'n'Roller,
qui est sorti
en 2008, qui est sorti quand je travaillais dans un club vidéo. Donc, je l'ai vu, je ne m'en souviens pas.
Fait que c'est ça, lui, il est reconnu pour du montage vraiment frénétique, beaucoup de genre de chassés-croisés, puis des gangsters colorés avec du gros patois. Je pense que la plupart du monde vont le connaître pour Snatch.
Ouais.
Puis c'est des intrigues justement qui suivent des criminels dans leur propre monde avec leur propre set de règles qui sont enfreinées ou pas, puis du monde qui cafouille dans ces règles-là, puis dans les job-ins qu'il faut qu'ils fassent dans ce monde-là.
Exactement.
Puis moi, je te dirais que j'ai vu Snatch, je pense, quand j'étais au cégep. Fait que j'ai une impression juste comme vraiment visuelle, sensorielle du film, puis de Brad Pitt dedans, comment il parlait. Là.
Mm-hmm.
C'est pas mal ça que je me souviens. Mais. Comme tu disais, ça fait 12 ans là, que Guy Ritchie, lui, il essaie d'aller au prochain créneau hollywoodien,
ouais.
De faire des gros blockbusters.
Ben en fait, c'est qu'il a fait Sherlock Holmes, qui était comme...
Ah oui, c'est vrai,
À cette époque-là, tu sais, qui était un film énorme, là, un huge shit, mais tu sais, qui était pas vraiment nécessairement... c'était pas écrit dans le ciel que ça allait pogner, tu sais. C'était un genre de Sherlock Holmes steampunk avec Robert Downey Jr. Qui était... sur le bord de faire Iron Man, peut-être. Ou, tu sais, c'était dans la même période. Là. Fait que, tu sais, certainement que Iron Man a aidé Sherlock Holmes. Mais Sherlock Holmes a propulsé Guy Ritchie dans une stratosphère de faire des blockbusters parce qu'il a aussi fait King Arthur, tu sais, le King Arthur avec Charlie Hunnam de 2 ans, genre. Aladdin, tu sais. Des affaires qui sont, somme toute, vraiment poches et inutiles. Mais qui sont quand même, tu sais, à peu près aussi gros que tu peux te rendre là, dans le... Parce que moi, je dirais que si tu travailles pour Disney, c'est comme travailler pour Marvel, mais je dirais que faire des gros blockbusters sans être sous le joug de Disney ou Marvel, c'est comme une coche plus haut.
Ouais. T'sais. Tandis qu'il y a eux autres qui font juste ça, il n'y a rien là dans le fond.
Exact,
là.
C'est ça.
Mais oui, je me rappelle de Sherlock Holmes être moyennement amusant. Moi, j'aime bien gros Sherlock Holmes, j'aime bien mes détectives, mais Sherlock Holmes sortait en même temps que Sherlock à BBC venait juste de sortir, puis là, moi, je me souviens que c'était surtout les premiers, là, avant que, mettons, que le show Sherlock croule sous ses propres excès, c'était comme, ah non, oublie ça, Robert Downey Jr., là, c'est Sherlock sur la BBC, c'est le real shit, c'est le vrai Sherlock, c'est ça qui est vraiment bon. Ben, même si je trouvais ça, cela sympathique, là, parce que l'affaire que j'aime, moi, je pense, de Guy Ritchie, c'est vraiment la façon qui... Moi, je voudrais que je suis vraiment dans la teinte pour n'importe qui essaie d'être le moindrement stylisé. dans ses affaires. Moi, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Fait que il y a cet aspect-là que j'aime de Guy Ritchie, que j'aimais de son Sherlock Holmes, et aussi que j'ai vraiment aimé de son Man from U.N.C.L.E., qui était un pas mal mal aimé, mais tu sais, d'utiliser, puis en plus, comme il fait, puis en plus, c'est du GQ des années 60, ouais, européen, ouais. Mode, agent secret, tout ça, là, moi, j'aime bien, bien ça. Là. Fait que, pour moi, les affaires de Guy Ritchie, c'est généralement justement des plaisirs assez de surface.
Ouais, mais je pense que c'est ça aussi, tu sais. Fait qu'il y a 4 films de gangster de Guy Ritchie avant Gentleman. Le premier qui est Lock, Stock and Two Smoking Barrels avec Jason Statham, qui est comme, tu sais, son premier film un peu, c'est dans la lignée, mettons, d'un Reservoir Dogs, des films indépendants qui pognent plus que expected, mettons, puis tout. Après ça, t'as Snatch qui est comme, je pense encore comme, t'sais, quand Guy Ritchie va mourir, ça va écrire Snatch Director Guy Ritchie Dead at 52, whatever. Puis après ça, il y en a deux qui sont fucking mauvais. Genre, il y a Revolver. Que ça, je me souviens d'avoir vu Revolver quand c'est sorti, genre, fait que j'étais au cégep. Puis de juste penser comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? T'sais, Guy Ritchie l'a échappé. C'est comme un genre d'abstraction du film de gangster. T'sais, c'est avec Ray Liotta, puis. Genre André 3000, puis Dominic Pastor, ou tu sais, le gars des Sopranos. Tu sais, c'est comme une affaire, un ramassis d'affaires que tu devrais pas laisser le monde faire des affaires de même. Tout est en couleur, tu sais, il y a des scènes toutes bleues, toutes rouges, etc. Puis après ça, Rock'n'Roll, qui est poche aussi, mais tu sais, qui est, somme toute, comme un genre de. Un sommaire des autres films de Guy Ritchie avant. C'est le plus Guy Ritchie des Guy Ritchie, dans le fond. Jusqu'à ce qu'on arrive à The Gentleman.
Ouais.
Qui, selon moi, est le plus Guy Ritchie, de Guy Ritchie qui veut vous montrer comment Guy Ritchie est.
Fait que, puis c'est ça, pour expliquer vaguement ce qui se passe dans The Gentleman, tu sais, on suit un gars qui s'appelle Mickey Pearson, ou Mickey Pierce.
Ouais, Mickey Pearson.
Qui est joué par Matthew McConaughey, qui est un gangster, qui est un caïd du pote à Londres, qui est parti des États-Unis puis qui est devenu, c'est ça, un des caïds de la marijuana en Angleterre, ou du moins à Londres. Et puis, lui, il s'apprête, il veut quitter la business. Fait qu'il s'apprête à vendre son empire illicite à quelqu'un d'autre, à un autre businessman aussi caïd du crime.
Ouais, aussi américain, joué par Jeremy Strong, là, qui joue Kendall dans Succession, si vous avez vu ça.
Qui est comme le personnage principal dans Succession, ouais, si je ne m'abuse. Ouais. Qui était aussi son partenaire de scène dans dans Serenity, qui est un tout qu'un film à voir, si vous voyez ça sur Netflix à un moment donné. Là. C'est à écouter. Et puis... quand on commence avec une narration qui parle d'être le lion dans la jungle puis tout ça, puis il faut pas se faire pogner par faut pas montrer des signes de faiblesse, sinon exact. On se fait attaquer. Et là, alors qu'il veut vendre son empire, il y a quelqu'un qui attaque mystérieusement une de ses fermes de potes, et ce qui fait baisser la valeur de son empire. Alors il essaye d'enquêter là-dessus, qu'est-ce qui est arrivé. Exact. Et à travers ça, on a aussi un reporter vers eux qui semble avoir filmé et photographier toute l'affaire, qui fait chanter Matthew McConaughey puis son sidekick qui est Charlie Hunnam.
Ouais, dans le journaliste verru joué par Hugh Grant.
Oui, oui, Hugh Grant qui est... Moi là, Hugh Grant là, le plus stéréotypé archétype qui peut être dans n'importe quelle direction là, moi j'achète.
Ouais.
Moi je trouve qu'il est... Il est délicieux. Ben, en fait, quand il décide de jouer un crotté, là,
ça arrive pas souvent quand même.
C'est de ce que je comprends. Me semble que c'est plus récent dans sa carrière, là, mais quand Hugh Grant décide d'être crotté, il est vraiment délicieux. Là-dedans, il est vraiment comme un pas de classe, reporter, sale.
Ouais, qui... il travaille pour. Je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est comme le Daily Mail. C'est un tabloïd à scandale, là, vraiment. British à fond, là, tu sais.
Ouais, que c'est les tableaux de scandale, c'est vraiment comme une plus grosse culture là-bas qu'ici,
ouais,
que là.
Dans le journal, je pense que c'est dans Daily Mail, il y a le page 3 girl. À la troisième page du journal, comme si tu ouvres le journal de Montréal, puis à la page 3, il y a une fille topless.
Ouais.
À tous les jours. Tu sais, c'est comme Allopolis, là, tu sais. Imagine que le journal de Montréal, c'est Allopolis, là.
Fait qu'il y a... Puis, il y a pas juste un journal, là, en Angleterre, mais ça, c'est le plus gros. Alors, c'est comme ça un peu un des méchants dans cet univers-là. Et puis, t'as aussi. Fait que bref, t'as divers personnages que là, ils tombent dans l'enquête, qu'est-ce qui arrive, qui essaye de crosser qui. En même temps, t'as un mafieux chinois, ouais. D'origine chinoise plutôt, qui s'appelle Dry Eye, qui est joué par Henry Golding.
Avec des fausses dents,
parce qu'on dirait qu'ils ont en fait comme non, Henry Golding, il est trop beau, faut lui donner des dents LED.
Tout le monde est un petit peu crotté dans le film, mais lui, genre, peu importe comment tu le crottes, il a l'air de quand même Henry Golding, fait qu'ils ont donné comme des grosses chiclettes croches, là, genre.
Ouais, c'est ça, parce que sinon, il est comme trop parfait, là. Ouais, ça fait une géométrie parfaite, et aussi, il est mon pic pour Namor, mec, ils vont amener Namor dans le MCU. Henry Golding, esti, il est déjà là. Mais... Fait que là, on a tous ces chassés qu'on a. Fait que c'est dans le fond, comme tu dis, c'est un gros film de Guy Ritchie. C'est un genre d'histoire à la... comme lui sait bien les faire. Puis c'est comme une grosse pâtée que le monde nous serve, que le film nous sert. Puis ce que j'en ai pensé dans le fond, c'est que des fois, la stylisation puis tout ça, ça marche bien pour moi. Je trouve ça le fun. Je trouve, comme justement, voir Hugh Grant aller, c'est plaisant. Charlie Hunnam, je le trouve toujours vraiment comme très beige, mais là, il est comme trop carte de mode beige, là. On dirait qu'il essaie d'être... Tu sais, c'est pas qu'il a pas l'air tough, mais il a trop de l'air de sortir d'un magazine de mode pour être sûr que qu'il est vraiment tough, là. Puis... Puis le reste de ça aussi, c'est très un film qu'on pourrait appeler un film de papa.
Ouais.
Tu sais, un film de plus... c'est un film boomer de... Hey, la génération en haut, les vieux, eux autres, ils savent vraiment comment le faire.
Ils se tapent sa gueule, mais ils ont des cravates. Tu sais, fait que ils sont bien habillés quand ils font des crimes.
Puis... Ouais, c'est ça. C'est des gentlemen. C'est pas des sauvages comme les autres, comme les jeunes dans la rue qui ont des calottes.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est pas des gentlemen. Fait qu'il y a beaucoup de... Les vieux sont les best. Les jeunes, c'est de la racaille.
Ouais.
Puis il y a beaucoup d'affaires aussi de... Ben, tu sais, on... Le méchant, ou tu sais, un des personnages, on a dit comme justement Henry Golding, il est chinois.
Ouais.
Les ennemis sont chinois. Il y a comme le gars avec Jeremy Strong joue un dude d'origine juive. Fait que là, il y a comme des adversaires alliés que t'es pas sûr aussi qui sont pas des true, des vrais blancs. Fait qu'il y a comme ce sous-texte-là qui est comme, qu'est-ce que tu fais?
C'est très British, ça, par contre. Tu sais, je vais donner ça, là, je veux dire. C'est vrai que c'est crissement douteux, là, puis c'est poche. Mais en même temps, c'est pas vraiment... ça fait partie de la culture, genre.
Ouais,
c'est pas Guy Ritchie qui est comme « Laisse-moi être raciste plus que les autres. » Tu sais, c'est pas hors de commun, mettons. Ce qui est poche, là, genre, je veux pas que le monde fasse des films racistes, mais mettons... Dans cette lignée-là, mettons, tu parles de film de papa, il y a un film Harry Brown avec Michael Caine. Mm-hmm. C'est un film de vengeance, genre Michael Caine, je me souviens plus qu'est-ce qui arrive, là, il se fait tuer quelqu'un dans sa famille par des jeunes noirs, fait que là, il se promène dans la rue, puis il a un death wish avec des jeunes noirs. Puis ça, c'est vraiment une affaire de comme, ils s'en viennent chez vous. Tu sais, ils pourraient être partout, les méchants, la crise de raccord, ils sont partout. Fait que, tu sais, là, au moins, vu que c'est Guy Ritchie, c'est très stylisé, c'est très, tu sais, niaiseux, genre. Puis t'es pas supposé... Mais c'est ça le problème, fait que t'es supposé trouver que les personnages sont cool,
mm-hmm.
mais ils sont aussi racistes,
tu sais. Ouais, c'est ça, ils sont aussi racistes, puis... Mais aussi, l'affaire aussi que... alors que tu parlais de ça, je me suis rappelé que, tu sais, les affaires raciales, c'est moins élevé dans la culture britannique. Eux autres, c'est la classe en Angleterre.
Ouais, c'est
t'es-tu riche ou t'es-tu pauvre? Versus en Amérique du Nord, ben, surtout aux États-Unis, c'est ton bagage culturel, racial, là, qui est plus important. Fait que, mais c'est ça, à part quand le film, mettons, tu sais, au début, il explique beaucoup comment qu'un empire criminel de potes fonctionne, puis des affaires comme ça. Puis Guy Ritchie qui fait des petits montages snappy pour expliquer des affaires. Moi, j'adore ça. Je peux tout le temps apprendre. Il explique vraiment bien toutes ces affaires-là. C'était même dans Man From U.N.C.L.E. aussi. Tu sais, la façon que tu passes d'une intrigue, d'une storyline à l'autre, c'est tout le temps clair comme le cristal. Tu sais, il y a tout le temps une intrigue vraiment comme emberlificotée. Il y a tout le temps plein d'affaires.
Ouais.
Et ça reste clair et net. Mais il y a toute la couche d'affaires de le bon vieux temps, c'était le même. Puis ouais. Nous, on est des gangsters honorables que je suis comme, ah, pff, ok. Là. Ça, ils veulent trop que ça soit cool. Là,
ouais, puis moi, je pense que aussi la trame en tant que telle est quand même laborieuse parce que, tu sais, c'est. Comme là, on l'a expliqué d'une façon quand même claire, mais c'est pas comme ça que le film s'y prend. Tu sais, mm-hmm. Presque tout est raconté par Hugh Grant qui raconte, qui déblatère tout ça à Charlie Hunnam, chez Charlie Hunnam. Puis là, tu sais, il dit quelque chose, puis là, on va le voir, tu sais. Puis, moi, je suis pas tant fan de ce genre de structure-là. Genre, le film qu'on regarde est une histoire que quelqu'un raconte.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que, justement, ça permet trop de faire des omissions, puis tu sais, du passe-passe, puis des affaires. Je comprends pourquoi qu'un writer, tu sais, voudrait faire ça. Parce que quand quelqu'un raconte une histoire, il peut décider de pas t'expliquer quelque chose.
Mm-hmm.
Puis,
mais ce que je t'avais pas dit, c'était que...
Exact. Hein? Sauf que ça, ils font ça à outrance dans ce film-là, constamment en train de dire... Puis, mais finalement, c'était ça, tu sais. Puis ça devient comme un peu... Pas dur à suivre, mais tu sais, je commence à m'en calisser. À cause que... Tu sais, je sais bien qu'à un moment donné, genre, s'il y a quelque chose que je comprends pas, Hugh Grant, il va repasser dessus dans 10, 15, 20 minutes, tu sais. Puis... Ce genre de racontage d'histoire-là, je trouve que ça a ses limites. Là,
ouais, surtout que le personnage de Hugh Grant, il dit au début du film, « Check, j'ai un script de film. Mm-hmm. J'ai déjà écrit un film. » Sur. Premièrement, il filaturait tout ce monde-là, mais il a écrit un film, fait qu'il est extrêmement prolifique en tant que scénariste. Oui, c'est ça. Puis il n'y a aucune scène où il y a un board chez eux avec plein de petites cartes, 2x5, où il y a tous ses actes et ses personnages.
Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est ça, comme, tu sais, puis il utilise du langage filmique pour dire, fait que là, c'est le temps de rencontrer notre méchant. Puis ça, c'est, j'étais comme,
ouais, 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 c'est ça.
C'était vraiment gênant, le film n'a pas besoin de ça. Là.
Ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'est le genre d'affaire, tu sais, ça me parlait quand j'étais jeune, tu sais, quand j'étudiais en cinéma, puis j'étais comme, c'est hot de fucking parler, de faire parler un film comme on parle de cinéma, tu sais. Mais là, puis ça, c'est normal, tu sais. En 2000, quand j'étais jeune. Mais là, que Guy Ritchie fasse la même affaire 20 ans plus tard, tu sais, puis il a comme pas vraiment évolué. Tu sais, ses références dans le film sont tout de même de base. Tu sais, il parle de The Conversation, là,
ouais, ouais.
De Coppola. Et à la fin, il y a comme une référence, justement, un peu raciste au Marchand de Venise de Shakespeare. Là.
Mm-hmm.
Parce que, ben là, on est rentré dans les spoilers, je pense, on peut dire.
On peut rentrer dans les spoilers au sujet du film, ouais.
OK. Ben, parce que c'est un spoiler, puis pas, il demande un pound of flesh, une livre de chair du personnage juif, mm-hmm. qui est la chose qui arrive à Shylock dans A Merchant of Venice, tu sais, qui est un personnage juif qui est un Shylock, là. Mm-hmm. C'est de là que ça vient. Puis là, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est sans doute le personnage juif le plus reconnu de la fiction, tu sais. Puis tu es allé directement, là, Guy Ritchie, tu sais, t'as pas... t'as aucune honte, là, de faire des références aussi...
Tout nu.
Ouais, aussi tout nu, là. Puis tu sais, même comme les needle drops dans le film, là, de musique, à un moment donné, il y a la toune Vitamine C de Cannes.
Mm-hmm.
Dans le film, puis j'étais comme, oh, ça. Tu sais, moi j'adore ça, Cannes, c'est un band allemand, genre.
Peux-tu appeler le nom pour que les auditeurs qui seraient intéressés?
A-N.
Ah, c'est juste Cannes. C-A-N de même.
Yes. Puis tu sais, c'est un band, il appelle ça crot rock, là. C'est comme progressif, répétitif, expérimental, tout ça. Puis cette tune-là drop dans une des scènes, puis j'étais comme, oh, sick. Puis là, je me suis immédiatement rappelé que ça drop aussi dans Infinite. Non, pas Infinite Jazz, c'est le film de. De Paul Thomas Anderson, Inherent Vice.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, puis tu sais, genre, c'était pour choper des affaires à Paul Thomas Anderson. Best come correct, là, genre, tu sais, de dropper, d'utiliser comme faire le même drop, mais plus poche, dans un contexte similaire. Tu sais, c'est encore là, c'est une nanane pour moi, mais je refuse ta nanane. Je la crache. Je ne la veux pas, tu sais. J'avais ça, justement, c'est très, très cool par exprès, tu sais. Comme juste
ouais,
au,
comme
juste
tout
needle
le,
drop. Là,
ouais, comme tout le look du film de Guy Ritchie. T'es-tu correct? Y a-tu
une urgence? C'est correct. Non, c'est correct. C'est que j'arrête pas de faire. Brum, brum. C'est okay. Parce que hier, je me suis couché à 4h du matin et là, la personne avec qui j'étais hier à 4h du matin me dit hey, je suis magané. Je suis comme oui, c'est cela.
Ouais, c'est comme ça que t'as ta belle direction artistique dans ta voix pour ce review. Fait quoi, ouais, je pense qu'on n'a pas tant que ça à dire au sujet de ce film. C'est un film de Guy Ritchie. Je pense que si le monde aime ça, ils vont y trouver leur compte. Autrement, si vous voulez voir un bon film, si vous voulez voir un film policier correct, satisfaisant, c'est une bonne option, je pense.
Ben, y en a des pires, il y en a des mieux, je te dirais. C'est juste que... pour moi, il y a quelque chose de quand même décevant quand des cinéastes font exactement la chose que tu t'attends d'eux. Puis il y en a qui sont pires que d'autres. Je trouve que justement le monde, Kevin Smith en a un autre. Là, parce que je suis comme, pour plein de monde, ça marche. Il reverrait la même affaire 10 000 fois. Moi, je trouve juste ça poche. De revoir quelque chose comme. C'est dur à verbaliser, ou peut-être que je suis juste magané, là, mais tu sais, l'idée de. T'es capable de faire ça, tu l'as déjà fait, puis tu retournes à ça. Il y a quelque chose, je trouve, de. Ça déçoit, tu sais. C'est du diminishing returns, comme on dirait en anglais, tu sais. C'est comme. Ça va jamais être aussi bon que la première fois que tu l'as fait, puis que c'était bon, je pense, tu sais. Fait que. Je trouve que c'est correct, là. J'étais pas fâché, tu sais, j'étais pas triste en regardant le film, mais j'ai quand même trouvé ça, somme toute, inutile. T'sais.
Ouais.
Puis comme, juste de voir Guy Ritchie... J'imagine, si t'aimes plus Guy Ritchie que moi, j'aime Guy Ritchie, c'est du bonbon de le voir faire ses galipettes usuelles. Mais pour moi, c'était juste comme, alright, là, c'est ça, c'est Guy Ritchie, tu sais, il fait son affaire. Puis... on n'a pas parlé de Colin Farrell. Et Colin Farrell, un film aussi.
Oui, ça c'est vrai. Faut que... ben, c'est un des affaires qui est le fun de ce film-là, justement. C'est la panoplie d'acteurs est tout de même vraiment intéressante. Puis il y a Colin Farrell dans le rôle de coach, qui est un gars qui run un gym de boxe/MMA. Où ce qu'il semble gérer des jeunes qui étaient des jeunes schnappants qui sont potentiellement du trouble, qui aiment faire du rap et
des vidéos YouTube
qui c'est du fight porn qu'ils filment puis qu'ils éditent puis qu'ils rappent par dessus ce qui est une idée qui me semble trop moderne pour Guy Ritchie. Probablement qu'il y a quelqu'un qui est plus jeune que lui et il a dit hey check ça existe. Qui est là-dedans, mais sont renés par Colin Farrell, qui est immédiatement aimable et agréable dans son rôle. J'aurais aimé ça que le film soit sur lui, soit sur son personnage.
Ouais, c'est ça.
Puis, tu sais, Colin Farrell, c'est une valeur sûre. Tu sais, quand on avait écouté Winter's Tale, là, qui était extrêmement bizarre et étrange, mais lui, il se donnait à 110%. Ouais. Mais là, on dirait que Colin Farrell, quand tu lui dis comme, ah, tu vas porter des grosses lunettes. Tu vas être un petit peu, juste un petit peu crotté.
Ouais.
On dirait que là, il s'ouvre comme une fleur.
Il porte comme des tracks. Mais c'est parce que je pense que c'est ça, tu sais. Être un jeune premier en Beden, ça brise tout le monde. Tu sais, tout le monde vient fucker d'être ça. Mais Colin Farrell, c'est le seul qui a fait comme, ah, oh, je vais utiliser ça comme une arme. Vous voulez que je sois beau, être dans des films poches. Maintenant, je vais juste être dans des films weird. Je vais être gros. Je vais être, tu sais, genre des. Stupide cheveux, tu sais. Jake Gyllenhaal aussi fait ça un peu, là, tu sais.
Ouais.
De se rebeller contre leur image Hollywood, tu sais. Mais je trouve que Colin Farrell, c'est lui qui le fait le mieux, là, tu sais. Il joue dans les films de Yorgos Lanthimos, là, puis tout. Puis c'est comme. C'est comment vraiment utiliser ta notoriété, puis ta face de jeune premier comme une arme. Puis dire, tu sais. Moi, j'aime tout le temps ça quand.
Je suis là maintenant, c'est deal
ça.
Avec.
T'sais, j'aime tout le temps ça quand quelqu'un fait un film que le monde s'attend pas, fait que là, tu sais, comme Uncut Gems, qui est un bon exemple. Tu sais, du monde, quand il y a un film d'Adam Sandler, puis là, ils vont le voir, puis là, ils font ah, fuck. Tu sais, ça, je trouve ça hot. Mais ce gars-là, Colin Farrell, il est tellement rendu plugué dans ça que c'est rendu juste ça qu'il fait. Puis c'est ça qui est. Pour ça, ici, il est dans un rôle pas tant important qu'il aime clairement ce rôle-là. Tu sais, il l'a pris parce qu'il est comme ouais, je veux être ce dude-là. Parler avec mon vrai accent irlandais, porter des tracksuits carottés, tu sais, puis être comme.
Faut dire ça look en crise, toutes les affaires de tracksuits carottés, là. C'est vraiment nice. C'est
une petite calotte, là. Puis... C'est ça, tu sais, c'est. Puis il est cool, tu sais. Il est aussi comme. Plus nonchalant, tu sais. Tout le monde s'est crié dans ce film-là. Mais lui, il est comme, là, je vous donne 3 chances. Tu sais, après ça, je disparais, je vais plus jamais vous voir, je vais vous m'énerver. Tu sais, on dirait qu'il veut pas être dans le film. pas être dans le film, mais pas être dans la trame narrative du film. Lui, il veut être sorti de ça. Il a été mêlé à ça contre son gré, puis ça le fait chier.
Ouais, à un moment donné, il a une super bonne ligne. Il dit « Je suis pas un gangster, mais j'ai dû faire des affaires de gangster dans ma vie. Mm-hmm. Puis comme je veux que ça arrête là. »
Ouais.
Fait que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que justement, attendez qu'il y ait un Colin Cut, que juste les scènes de Colin Farrell sur YouTube. Ça va être ça le best. Mais ouais, non, il est vraiment écœurant là-dedans.
Mais tu sais, il faisait ça un peu. Ça a toujours été ça comme son. Le meilleur mode de Colin Farrell, c'est Colin Farrell baveux.
Mm-hmm.
Une chose qu'il fait plus vraiment, mais tu sais, comme quand il était big, là, c'était tout le temps la merde quand il était comme un beau ténébreux action hero. Tous les films étaient de la merde. Quand il faisait un baveux, tous les films étaient. Au moins, tu étais comme, oh fuck yeah, t'sais, ça c'est Colin Farrell, ça c'est tout qu'un acteur.
Mm-hmm.
En même temps, ça, c'est, il y a juste une corde à son arc, là, c'est ça. Mais là, tu vois, il s'est développé. Je trouve que là c'est hot parce qu'il est comme baveux puis il a pas besoin d'être aimable, tu sais. Il tirait beaucoup sur le Deadpool avant, tu sais, mettons. Sur
ouais.
L'idée d'être genre, ah, tu sais, I'm a little stinker, gotta love me, tu sais. Tandis que là, comme, en tout cas, je trouve ça intéressant. Ça, pour moi, l'affaire la plus intéressante du film, c'est Colin Farrell.
Mm.
Comment il rentre dans ce rôle, somme toute ingrat, ça aurait pu être n'importe quel British, Irlandais, whatever, parce que c'est pas un rôle énorme. Mais comment il rentre là-dedans, puis comment il utilise ça pour son propre gré, pour l'aider, je sais pas. Comparé à, tu sais, mettons, il y a beaucoup de bons acteurs dedans, mais tu sais, mettons, McConaughey, ça il... l'utilise pas à son plein potentiel, je trouve.
Il est pas. Il est très fade dedans.
Ouais, c'est ça.
Comme on se souvient de lui depuis qu'il est revenu avec True Detective, tout ça, comme « Ah oui, McConaughey, c'est un big deal. » Mais là, on le voit, il est juste là. Tu sais qu'il est vaguement important. Il se choque une ou deux fois. Il est comme un peu électrique, comme vers la fin. Un peu, mais même là, tu sais, c'est... Il est juste là. Charlie Hunnam aussi, il est tellement beige, mais il aime... Quand McConaughey est beige, c'est 10 fois plus de présence que Charlie Hunnam, anyways. Là, mais
tu sais, Charlie Hunnam, justement, moi, peut-être que je l'aime un peu plus que toi, mais ouais. Comme je ne trippe pas dessus non plus. Je trouve qu'il a le pire accent américain de tous les temps.
Mm-hmm.
Lui et Tim Roth ne devraient jamais faire des accents américains, et pourtant, ils en font tout le temps.
Mm-hmm.
Mais tu sais, comme il est dans The Lost City of Z, là, le film de James Gray, que ça, je trouve que c'est un esti de bon film, puis lui, il est vraiment bon dans ce film-là. Mais justement, parce qu'il est vraiment sorti de sa zone de « je suis un beau jeune blond, blondinet monsieur ». Moi, Charlie Hunnam, il est dans ma vie depuis éternellement longtemps. Il était dans Undeclared, là, l'émission de Judd Apatow, que j'adorais quand c'était à TV.
Ouais, moi aussi, j'aimais beaucoup Undeclared.
Fait que tu sais, je l'ai toujours vu, je l'ai toujours comme perçu. J'ai écouté un peu Sons of Anarchy, puis c'était en partie parce que je le connaissais. Mais Sons of Anarchy, ça, c'est un autre... un autre podcast, là, mais je trouve, il est quand même comme... J'ai jamais vraiment trouvé qu'il a été jamais aussi bon qu'il était quand il était Lloyd dans Undeclared, tu sais.
Moi, je l'ai connu aussi dans Undeclared, puis je le trouvais... Ben, justement, le fait qu'il était comme juste un gars drôle qui s'en crissait un peu, ça jouait vraiment sur le fait qu'il était beau de même.
Ouais.
Puis aussi, je l'ai vu dans ce qu'il a fait avant, dans Queer as Folks, que je pense que son personnage s'appelait Stuart. Puis là-dedans, il était comme un beau gars, mais qui était aussi un peu une petite marde.
Ouais.
Fait que ça, je trouvais ça intéressant. T'sais, dans Queer as Folks, là, c'est l'histoire d'un jeune qui est dans une garde-robe, puis il décide de quitter un peu sa banlieue pour aller à Manchester, pour être dans la... où est-ce qu'il y a la scène gay dans le nord de l'Angleterre à l'époque. Mais tu sais, Le show commence avec lui qui est dans un...
Il est le personnage principal, c'est ça?
Il est comme le personnage qui rentre dans le show puis qui nous amène dans ce monde-là de Manchester, tu sais. Puis comme il tombe en amour ou en rute avec un autre personnage dans la série. Puis le show commence avec lui qui est avec une de ses amies dans un party. Puis tout le monde s'embrasse, puis comme il s'emmerde, puis tu sais, comme il ressent que tu sais, lui, il veut frencher un gars, mais c'est pas vraiment possible. Ouais. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il va dans la chambre à coucher où il y a toutes les codes pendant le party. Il vole genre 10$ dans le code de son ami, il la laisse tout seul, puis il prend cet argent-là pour prendre un boss pour aller à Manchester. Tu sais, fait qu'il est comme. Puis quand il arrive dans le jeu, tu vois qu'il sait qu'il est un jeune beau, puis que ça fait capoter des plus vieux gays, puis il s'en sert un peu. Fait que moi, on dirait qu'il faut qu'il soit comme
plus marde un peu, ouais.
Plus marde, puis là-dedans, je pense qu'on dirait qu'il essayait de trop jouer, là. Je suis un gangster, mais je suis aussi honorable comme un gars de GQ.
Ben, il veut être un peu mature, tu sais, il porte autant un cardigan, il veut être un dude à cardigan. Mm-hmm. Mais il est pas, tu sais, c'est ça. Je viens de penser justement au film Green Street Hooligans, dans lequel il joue aussi avec Elijah Wood, où ce que Elijah Wood est comme un gars qui va...
Qui est undercover dans un gang de hooligans.
Il est pas undercover, je pense qu'il est... Ouais, ça fait longtemps que je l'ai vu en esti, ça fait 15 ans, là, mais tu sais, lui, c'est comme son beau-frère, je pense. Puis c'est des hooligans de soccer, tu sais, qui vont dans des pubs et qui te cassent des gueules parce que leur équipe n'a pas gagné. Puis dans ça aussi, il est comme une marde. Tu sais, je pense que justement, quand t'es beau de même, ça sert à personne que tout le monde dise « Hey, check comment il est beau puis il est hot ». Personne, mm-hmm. tu vas automatiquement créer du malaise et de la haine. Quand c'est une merde, t'es comme « Ah, tu sais, qu'est-ce pourquoi il est de même? » c'est plus curieux. Là, ici, il est très beige, puis il est très, tu sais, il a comme une... Il a plus l'air de son âge aussi, tu sais. Sa barbe est comme grise, là, mm-hmm. puis tu sais, il a l'air d'être un quarantenaire. Mais tout de même, tu sais, c'est ça, c'est comme... Beaucoup d'acteurs, puis beaucoup d'acteurs qui sont dans ce film-là, sont renommés ou reconnus comme étant mal utilisés. T'sais, ils ne sont pas utilisés à leur valeur
qui est
la plus grande. T'sais. McConaughey, il est weird en esti. La meilleure qualité de McConaughey, c'est quand il joue un personnage qui est fucking weird puis intense, comme dans Wolf of Wall Street. Ouais.
Ça, c'est...
Mais quand, justement, qu'est-ce qui a brisé sa carrière en premier lieu, c'est quand il jouait des beaux gars en bédaine. Mm-hmm. Tout le monde s'en calissait. Tu sais, je suis un playboy. Tout le monde s'en calisse.
Personne n'était voir Sahara.
C'est ça. Personne n'est allé voir Ghost of Girlfriend's Past. Mm-hmm. Comme ce genre d'affaire-là, ça marche pas. Ça marche pour certains, mais pas pour lui. T'sais. Mettons, Jason Momoa, pas besoin d'être crotté. Tu sais, comme le monde est encore quel étrange Adonis, tu sais, je vais l'accepter dans toutes les... Mais quand t'es un McConaughey ou t'es un Hugh Grant, tu sais, Hugh Grant, que ça marche quand il est comme un petit British chétif dans des comédies romantiques ou quand il est un crotté. L'entre-deux, tout le monde se calisse de ça. Personne veut voir ça, tu sais. Mm. Fait que... C'est intéressant quand même au niveau du casting dans ce film-là parce que c'est beaucoup de gens... qui sont d'habitude mal utilisés, pas tous bien utilisés par contre. mais c'est ça. Je trouve que le casting est intéressant. Il rend le film plaisant à regarder sans nécessairement être bon.
Mm-hmm.
Puis tu sais, moi je dirais, mettons, c'est un Gentleman's 5 pour moi. 5 sur 10, mettons.
Mm-hmm.
Parce que justement, je trouve que ça se répète et c'est laborieux. Mais il y a quand même des bonnes affaires dedans. Puis tu sais, moi, Guy Ritchie, je suis pas vendu Guy Ritchie ben non plus. Fait que tu sais, mm-hmm. quelqu'un qui aimerait Guy Ritchie plus, qui est plus vendu pour ces affaires-là, je pense qu'il va y trouver son compte.
Ouais. Ben, je pense que ça va être ça pour The Gentleman. Mais cependant, Alex aussi, hier soir, t'as vu Bad Boys 3.
Bad Boys for Life.
Bad Boys for Life. Qu'est-ce que t'en as pensé rapidement, vite de même?
C'est très ridicule. C'est très inutile comme suite, surtout quand ça apporte toujours de l'attention à son propre sa propre inutilité, sa propre suétitude. Mais j'ai quand même trouvé ça un bon film d'action, ce qui est de plus en plus rare. T'sais, un film d'action quand même bien réalisé, avec les idées à la bonne place. T'sais. C'était très le fun à regarder sans nécessairement non plus être bon. T'sais, comme il y a plein de lacunes, ça fait pas de sens, c'est très cucu, tu sais. Ça se perd beaucoup dans son mix entre, hein, justement, tu sais, l'irrévérencieux Bad Boys et l'affaire plus sérieuse dont on a 50 ans, 55 ans, whatever, tu sais, puis notre vie est pas pareille. La balance entre ça est payable. Mais quand même, j'ai eu du fun. Puis tu sais, c'est ça. C'est un film d'action bien fait, avec beaucoup d'attention mis dans les scènes d'action. Une chose qui arrive de moins en moins, tu sais. Fait que pour ça, j'ai trouvé ça quand même très regardable. Puis ça va déjà être sorti quand le podcast va sortir, d'après moi.
D'accord.
Parce que Gentleman et Bad Boys ne sortent pas la même semaine.
Non, absolument.
Ouais, c'est du inside baseball, mais on le tape ça à l'avance.
On tape ça à l'avance, oui. Alors, Bad Boys, oui. Gentleman,
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça, on va terminer ça direct là. On vous remercie. Laissez-nous des commentaires.
Ouais, oui.
Si vous êtes d'accord ou si vous y a peut-être peut-être qu'il y a des films que vous aimeriez ça dont on parle, ou comme on avait déjà parlé aussi, j'ai checké à travers les commentaires des autres voyeurs de vue qu'on peut peut-être faire occasionnellement des épisodes sur des films qu'on aime aussi. On va bientôt en faire un sur Uncut Gems.
Oui, oui, oui.
Car moi, je vais attendre qu'il sorte sur Netflix pour que je puisse le réécouter pour mieux en parler. Mais bref, c'est ça.
Mais moi, j'ai une question par contre dans les commentaires. Dites-nous, est-ce que ça vous importe si vous avez. Ben, c'est sûr que si vous écoutez pas le show parce que vous n'avez pas vu le film, vous ne m'entendez pas en ce moment, donc vous ne pouvez pas répondre. Mais j'aimerais ça savoir si les gens, ça a une importance, s'ils veulent voir le film ou s'ils attendent de voir le film avant d'écouter le show.
Peut-être que je pourrais même faire un genre de mini-sondage.
Ouais, ça, je suis curieux parce que, tu sais, je... En même temps, nous, on va voir les films avant qu'ils sortent, donc forcément, si tout le monde attend d'avoir vu le film pour écouter le podcast, personne doit l'écouter quand il sort, parce que, tu sais, personne l'a vu, genre.
Ouais, fait qu'aussi bien attendre après que le film soit sorti.
C'est ça, c'est ça que je me pose comme question, mais en même temps, tu sais, il y a plein de films qu'on va voir, que, tu sais, Doolittle, j'espère que vous n'êtes pas attendu d'aller voir Doolittle pour écouter l'épisode, parce que, tu sais, ça, c'est... Vous courez à votre perte, les amis. Genre, allez pas voir Doolittle. Genre, c'est pas important d'aller voir Doolittle.
Ouais, hier, j'étais avec des amis en char, puis il y avait une personne en char, une de mes amies, qui était comme... Quand j'ai dit que Doolittle était pas bon, elle était extrêmement déçue. Là. T'es comme, elle voulait aller voir Doolittle. Ouais, je pense qu'elle espérait avoir une genre de date avec Robert. Je pense que c'était plus ça, l'aspect de ça, puis espérer que le reste soit plaisant. Puis savoir que ça l'était pas... C'était rough times.
Aïe, aïe, aïe.
Bref, on va revenir là-dessus. Et en attendant, on vous invite tous à aller voir une vue.
Allez-y.